Je vous propose de faire une lecture qui se trouvera dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 1er. Livre de l'Exode, chapitre 3, verset 1er. Le livre de l'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible qui raconte l'histoire de la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte où il était en esclavage. Donc Exode chapitre 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Voilà, j'attire votre attention sur le verset 2. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Le feu dans la parole de Dieu, dans la Bible, peut être le symbole du jugement. Jésus, dans les évangiles, dira que tout homme sera salé de feu. Dans l'Apocalypse, il est question de l'étang de feu, où les réprouvés, ceux qui n'auront pas accepté d'être rachetés par la grâce de Dieu, seront livrés pour l'éternité tout entière au tourment de l'enfer. Et puis ailleurs encore, il est dit dans la deuxième épître de Pierre que la terre et les cieux d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Donc le feu, symbole de jugement. Mais le feu peut être aussi également un symbole de l'action bienfaisante du Saint-Esprit. Par exemple, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, c'est pas, lorsque l'Esprit est descendu, il est dit que des flammes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, quels sont les effets du feu? Ils sont variés. Le feu purifie. Le feu réchauffe. Le feu éclaire. Le feu attire. Et le feu se propage. Et ce qui est vrai, comme bien souvent dans le domaine naturel, on peut également l'appliquer au domaine spirituel. D'abord, le feu purifie. Il purifie en consumant les impuretés, voyez. L'apôtre Pierre dira dans son épître, la première épître au chapitre 1er, verset 7, qu'il parle de l'épreuve de notre foi qui est comparée à l'or précieux, l'or qui est éprouvé par le feu. Et c'est vrai que le feu, lorsqu'on fait passer au travers du feu les métaux précieux, a pour effet de faire en sorte que les scories que le métal peut contenir encore disparaissent. Et au travers du feu, le métal précieux est purifié. Eh bien, c'est vrai aussi pour nous. Le Saint-Esprit veut consumer en nous ce qui est charnel, ce qui est mauvais, ce qui est impur dans nos vies. Le prophète Zacharie dira, chapitre 13, verset 9 de son livre, « Je le purifierai comme on purifie l'argent, Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. L'argent, l'or, je viens de le dire, sont purifiés, éprouvés par le feu. Donc le Saint-Esprit veut nous sanctifier. Alléluia. C'est pour cela qu'il est venu dans notre vie, pour nous sanctifier, pour nous amener à faire en sorte que les œuvres de la chair, en quelque sorte, soient consumées en nous par son action purificatrice. Et puis le feu réchauffe. Il y a parfois des cœurs glacés, froids, ou tout au moins tièdes. C'est dangereux d'être tiède, hein? Parce que le livre de l'Apocalypse nous présente Jésus s'adressant à cette église de la Odyssée qui était tiède en disant « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Et si nous en étions là, si nous étions tièdes ou glacés, le Saint-Esprit veut réchauffer notre vie intérieure. Alléluia. Il y a parfois des gens, des chrétiens, qui sont glacés intérieurement, dans le sens qu'ils sont découragés. Voilà. Devant les épreuves qui les ont accablés, ils ont baissé les bras et il semble que la présence de Dieu ne se manifeste pas, ne se manifeste plus. Où es-tu, Seigneur ? Ah, mon cœur est froid, mon cœur est sec ici. C'était le cas de quelqu'un ce matin. Le Seigneur, par son esprit, veut vous faire du bien et il veut vous réchauffer intérieurement. Alléluia. Ne restez pas dans cet état. Approchez-vous du Seigneur, cherchez sa face, intercédez, suppliez-le de vous renouveler dans l'esprit. Je sais que personnellement, lorsque je sens un petit peu ou beaucoup de vague à l'âme et que je ne perçois pas la présence de Dieu comme j'aimerais la percevoir, il y a toujours un moment où je m'approche de lui, de dire « Seigneur, ça ne peut pas durer comme ça, il faut que tu me réchauffes intérieurement. » Et Dieu le fait, alléluia. Dieu le fait parce qu'il est bon et il est généreux. Le feu aussi éclaire, il dissipe les ténèbres. Il clarifie ce qui est confus et il indique le chemin à suivre. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 14, il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons tous, les uns et les autres, dans toutes sortes de domaines, dans le domaine spirituel, mais pas que, dans d'autres domaines aussi, des décisions à prendre. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi. Et nous ne savons en quelle direction prendre. Seigneur, quel choix dois-je faire ? Des fois, dans la parole, le choix est clairement indiqué, précisément révélé par la parole. Mais parfois, dans d'autres domaines de notre vie, certaines circonstances, nous ne savons trop vers qui, vers quoi nous diriger. Je sais pas, moi, par exemple, un jeune homme, une jeune fille qui sent un sentiment venir dans son cœur à l'égard d'une autre personne. Seigneur, est-ce ton plan ? Est-ce ta volonté ? Est-ce que mon imagination est partie un petit peu à la dérive ? Ou est-ce que cette affaire vient de toi ? Est-ce que je suis dans ta ligne de pensée, Seigneur ? Eh bien, par l'Esprit, vous pouvez recevoir un éclairage particulier. Là, si vous cultivez la présence de Dieu, va se produire au fond de votre cœur quelque chose. Il y aura ce sentiment intérieur. Si c'est bon, si c'est oui, si Dieu est d'accord, il vous remplira de sa paix. Et à sa façon, il vous dira, voici le chemin, marchez-y. Si au contraire, vous sentez, en dépit de vos pensées humaines, un profond sentiment intérieur, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous dire, attention, ne t'égare pas dans cette direction, sinon tu auras des problèmes. Et pour avoir vérifié les deux choses, pour avoir parfois écouté la voix de l'Esprit et m'en être trouvé bien, je peux vous dire que ça marche. Et je dois confesser que parfois j'ai fait la sourde oreille, et alors que le Saint-Esprit produisait un certain malaise en moi, bien je n'ai pas voulu entendre, je n'ai pas voulu recevoir le conseil de Dieu, j'ai avancé dans une direction qui n'était pas la bonne, et j'en ai subi les conséquences fâcheuses. Le Saint-Esprit veut nous éclairer, vous voyez ? L'apôtre Pierre, un jour, là, sur une terrasse, c'était midi, on lui prépare à manger. Pendant ce laps de temps, il s'est mis en prière et il a reçu une vision étrange, une nappe qui descendait du ciel avec des tas d'animaux à l'intérieur. Et une voix qui lui disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » « Ah, Seigneur, il y a là-dedans des animaux impurs. je suis juif, je suis israélite, et jamais je n'ai mangé quelque chose de rituellement impur. Et le Seigneur insistait, ce que je déclarais pur ne le déclare pas souillé. Et puis, la vision a disparu. Et Pierre était perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner là ? J'ai pas rêvé, été victime d'une hallucination, il y a une vision authentique, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et pendant qu'il était à réfléchir sur le sens de la vision, la parole de Dieu nous dit que trois hommes, Actes chapitre 10, vous lirez ça, envoyés par le centenier Corneille, ont frappé à la porte. Parce que Corneille avait reçu la visite d'un ange qui lui avait dit « Va chercher l'apôtre Pierre, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. » Et pendant que ces gens-là toquaient à la porte de Pierre, le Saint-Esprit a parlé à son cœur et lui a dit « Pierre, trois hommes te demandent, en bas, voilà, ils viennent te chercher. Pars avec eux sans hésiter, c'est moi qui les ai envoyés. » Tout à coup, voyez, ce qui était obscur, ce qui était bizarre, étrange, qu'il remplissait de perplexité, s'est éclairé. L'Esprit lui a montré le chemin et c'est ainsi qu'il est arrivé chez Corneille, un païen. Sans cette vision, jamais, lui, juif jusqu'au bout des ongles, n'aurait pénétré à l'intérieur de la maison d'un païen. Mais l'Esprit lui avait indiqué la direction, il l'a suivi, et on connaît la suite, Corneille et sa famille se sont convertis. À nous de savoir cultiver cette sensibilité spirituelle pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Alléluia! Pour qu'il conduise notre vie, voyez. Je bénis Dieu parce que le Seigneur ne s'est pas contenté de nous sauver en nous disant, écoute mon gars ou ma fille, eh bien voilà, je te sauve, je te donne un rendez-vous dans quelques dizaines d'années, je te recevrai dans la gloire, dans le ciel, mais en attendant, sur la terre, eh bien fais comme tu peux. Débrouille-toi, fais tes choix, bons ou mauvais, et puis on verra bien. Non, le Seigneur nous a préparé une place dans le ciel, mais il a promis d'être avec nous et de nous conduire ici-bas. Amen. Et il nous conduit par sa parole, certes, mais il désire aussi nous conduire par le feu intérieur de son esprit. Le feu éclaire. Le feu purifie, le feu réchauffe, le feu éclaire. Le feu attire. Vous avez vu dans le texte qu'on a lu là, hein ? L'ange de l'Éternel lui apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici, le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Ce feu qui flambait là, à l'intérieur de ce bosquet d'arbres, hein, a attiré le regard de Moïse. Il s'est dirigé vers ce buisson en feu. Le feu en attire. Quand l'église est remplie du feu de l'esprit, la foule accourt. Vous savez ça ? Dans le livre des Actes, on trouve, hein, quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce n'est pas eux qui ont fabriqué du bruit. Ce n'est pas eux qui se sont excités, n'est-ce pas, qui ont sauté dans tous les sens comme des pantins. C'est l'Esprit de Dieu qui a manifesté cela. Et le texte dit qu'au bruit qu'il y eut, la multitude a couru. Moi, j'ai envie que la multitude accourt. Vous ne trouvez pas ? Qu'on soit à l'étroit, là. Que non seulement les chaises soient garnies, toutes, celles qui sont vides ce matin, mais que, eh bien, ça déborde. Et plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Et pour cela, il faut que nous soyons animés, remplis, vous et moi. Moi et vous, remplis du feu de l'Esprit. Et puis, le feu se propage. Le feu se propage. Dans un autre contexte, dans l'épître de Jacques, il est dit qu'un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est vrai dans le domaine naturel. Vous savez, dans le midi, hein, parfois, il suffit d'une cigarette mal éteinte, d'un mégot qu'un touriste va jeter par la fenêtre, pour que tout s'enflamme. Tout s'enflamme. Mais le risque est si grand que là-bas, dans le midi, jour et nuit, avant même que la tragédie ne se produise, les pompiers, ils demeurent en permanence dans la forêt pour prémunir tout risque. Un petit feu peut embraser une grande forêt. Eh bien, c'est vrai aussi dans le domaine spirituel. À la Pentecôte, le feu de l'Esprit allumé parmi les 120 disciples s'est ensuite propagé à une foule considérable. Bien sûr, il y a eu les 3000 qui se sont convertis, mais même au-delà, lorsque l'apôtre Pierre, justement à la Pentecôte, a prêché ce magnifique message, il dira, n'est-ce pas, à ses auditeurs, parlant du Saint-Esprit, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Mes amis, depuis 2000 ans, le feu de l'Esprit s'est propagé. Amen. Le feu de l'Esprit s'est répandu dans le monde entier. Il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite d'espace. Il y a des gens qui nous disent, des commentateurs de la Bible, qui nous racontent que, eh bien, voilà, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, le parlant langue, la prophétie, la guérison, les miracles, tout cela, c'était pour autrefois, c'était pour les temps apostoliques, n'est-ce pas? Et que maintenant, c'est terminé, il suffit de prêcher le salut, point final. Eh bien, non, mes amis, non. À la lumière de la parole de Dieu, nous affirmons haut et clair qu'il est encore temps de voir le Saint-Esprit se répandre dans nos vies et se propager dans le monde. Et c'est ce qui arrive pour que des multitudes viennent à la connaissance du Sauveur, mais que des multitudes aussi soient bénies, guéries dans leur corps, dans leur âme, reçoivent la grâce de Dieu et soient à leur tour remplis du Saint-Esprit. Moi, je bénis Dieu pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je bénis Dieu d'abord, bien sûr, prioritairement, pour le salut de mon âme, pour le pardon de mes péchés passés. Mais je loue le Seigneur pour ce temps merveilleux où, alors que je n'étais encore qu'un enfant, le Saint-Esprit est venu sur moi et je me suis mis à parler en langue. Et depuis, eh bien, ça n'a jamais cessé. Et c'est bon d'être devant Dieu et de se laisser remplir du Saint-Esprit, oui ou non. J'ai faim, j'ai soif de ces choses-là. J'en redemande encore et je dis, Seigneur, que ton feu, eh bien, puisse brûler en moi. Pas de limite de temps, pas de limite d'espace. Pierre dira justement, ce jour de la Pentecôte, c'est ici l'accomplissement de ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous savez que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde entier? Alléluia! Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde entier, voyez? Lorsque le pouvoir communiste s'est emparé de ce pays, de la Chine, dans les années 49-50, et que les chrétiens ont été persécutés terriblement, les serviteurs de Dieu mis en prison, etc., eh bien, les chrétiens de l'époque se sont dit, c'est fini, là-bas en Chine, l'Église est morte, c'est fichu, c'est terminé, voilà, on ne pourra plus rien faire là-bas, hein, mes amis. Quelques dizaines d'années plus tard, lorsque la porte s'est un petit peu ouverte, on s'est aperçu qu'il n'en était rien, voyez, et que le feu avait continué de brûler, alléluia, et que des multitudes, en dépit des persécutions, avaient accepté Christ comme sauveur, et ça ne fait que croître et s'embellir, et aujourd'hui, l'Évangile se répand, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, amen, et nous voulons qu'il en soit encore, ainsi Dieu soit béni. Nous sommes invités à laisser s'allumer en nous le feu de l'Esprit, à l'entretenir et à le maintenir. C'est important de le maintenir. Il ne s'agit pas de dire, vous savez, il y a 10 ans ou il y a 6 mois, oh, j'ai vécu quelque chose de glorieux. Ah là là, que c'était beau, que c'était magnifique. Béni soit Dieu si tu as vécu ou si j'ai vécu quelque chose de glorieux. Mais aujourd'hui, quant à la vie de l'Esprit, quant à ce feu intérieur que Dieu a voulu allumer en toi, où en es-tu? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 11, il dit ceci. Vous savez, l'Épître aux Romains, c'est une épître magistrale sur le plan de la doctrine. Paul fixe avec précision ce qui concerne le salut, la justification par la foi. Il passe tout ça en revue pendant les 11 premiers chapitres. Et puis ensuite, à partir du chapitre 12, il passe aux conséquences pratiques que doit avoir la doctrine. Parce que la vie chrétienne n'est pas faite seulement de théorie, elle doit être faite aussi de pratique, de vécu. Et parmi les recommandations que l'apôtre Paul fait, elles sont nombreuses au chapitre 12 et au verset 11, il est écrit ceci, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Dans une autre traduction, qui est peut-être plus près du texte littéral, il est dit « Soyez bouillants par l'esprit. » Soyez bouillants par l'esprit. Par l'esprit. Il y a là une idée de chaleur, d'intensité dans la vie spirituelle, voyez, d'ardeur, de zèle, d'empressement, de promptitude, de disponibilité, d'engagement, de service, de prière, d'assiduité aux rencontres de l'Église, de témoignage, d'amour, d'intérêt pour la parole. La question, au travers de cette expression, « Soyez bouillants, Père l'Esprit », d'un jaillissement de louange et d'adoration. Je me permets de poser la question. Est-ce que c'est comme ça dans notre vie? Est-ce que le feu brûle encore? Est-ce que le buisson ardent brûle encore dans notre vie? Ferveur, ardeur, je répète intentionnellement. Zèle, empressement, promptitude, disponibilité, engagement, service, prière, assiduité, témoignage, intérêt pour la parole, jaillissement de louanges et d'adoration. Toutes les raisons que nous pouvons nous donner pour ne pas vivre ça, mes amis, sont de mauvaises raisons. Puis on dit, oui, mais dans l'Église, il y a ceci, il y a cela, le reste, oui, d'accord, peut-être. Mais rien ne t'empêche. Quand bien même l'Église tout entière, aux trois quarts, aux neuf dixièmes, ne serait plus dans le coup, de vivre, toi, à la hauteur de ce que le Seigneur a préparé pour ta propre vie. Je t'interroge, mon frère, et je dois m'interroger aussi. Est-ce que le feu brûle encore, moi? Ou alors est-ce que ne sont non plus que quelques braises rougeoyantes qui sont en train de s'éteindre? Voyez, l'apôtre Paul dira à Timothée, 2 Timothée chapitre 1er verset 6, on peut l'afficher s'il vous plaît, « Ranime la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Une autre traduction dit « Ré-enflamme le don de Dieu. Ré-enflamme le don de Dieu. Quel don? Eh bien, le don conféré, communiqué par l'Esprit, au bénéfice duquel le jeune Timothée avait été placé, n'est-ce pas? Ré-enflamme le don de Dieu. Vous savez, dans le cas du buisson ardent, nous y revenons, j'aime ce verset. Le buisson était tout en feu et ne se consumait point. Normalement, écoutez ça, normalement, hein, on sera tous d'accord. Quand il s'agit d'un feu naturel, qu'est-ce qui se passe? Le bois se consume, et quand il est entièrement consumé, eh bien, le feu s'éteint. Oui ou non? D'ailleurs, quelque part, il est écrit, faute de bois, le feu s'éteint. Un feu naturel fait en sorte que la matière organique est brûlée et au bout d'un temps, il ne reste plus que des résidus. Mais là, c'était pas pareil. Le buisson était tout en feu et ne se consumait point. Il s'agissait d'un feu surnaturel, miraculeux, d'origine absolument divine. Ce qui fait que ce feu-là se renouvelait sans cesse par lui-même. Sans besoin d'ajout, sans besoin d'apport extérieur, il s'auto-alimentait ce feu. Eh bien, il a une image merveilleuse de l'action du Saint-Esprit en nous. Feu de l'action de l'Esprit qui veut brûler en nous intensément et continuellement. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure. Dans Éphésiens, il est dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Si nous voulions être plus près, plus proche du texte original, il est question d'être remplis, mais dans un sens de continuité. Une affaire qui se perpétue, qui se renouvelle sans cesse, comme dans le texte. Le buisson était tout en feu, le buisson ne se consumait point, le feu se renouvelait, s'auto-alimentait. C'est ça l'action du Saint-Esprit, mes amis. Et c'est à ça qu'on doit aspirer. Je ne veux pas d'une petite vie chrétienne rabougrie, ratatinée, misérable, étriquée, Je ne veux pas me contenter d'assurer le minimum vital pour ne pas aller en enfer. Je crie à Dieu, je vous assure, pour lui dire, Seigneur, donne-moi plus de toi par ton esprit. J'ai envie de vivre autre chose que ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour. Et je crois que Dieu peut le faire. Alléluia. Alléluia. Le feu de l'esprit. Vous comprenez ça? Le feu de l'esprit. C'est aussi un saint feu. Parce que quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, nous l'appelons à juste titre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a voulu rappeler à Moïse. Il lui a dit, Moïse, arrête-toi. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi cette terre était sainte? Elle n'avait rien en elle-même de particulier par rapport aux autres coins du désert dans lequel Moïse se trouvait. Mais ce lieu-là était saint parce que Dieu y manifestait sa sainte présence. L'Esprit de Dieu est de nature divine et sainte. Et il nous faut respecter cette sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut être austère à l'extrême. Rigide comme ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Non. Ça veut dire que nous devons chercher par l'Esprit à mener une vie sainte. Ce que Dieu veut, dit la parole, c'est votre sanctification. Pas cette sanctification extérieure. Vous savez, les pharisiens, ils avaient la tenue impeccable extérieurement, mais l'intérieur était pourri. Et Jésus dit, commencez par l'intérieur, et l'extérieur deviendra saint ensuite. Et c'est là ce qu'il nous faut faire. Qu'est-ce qui est dans mon cœur et dans le vôtre? Qu'est-ce qui boue dans ma marmite, au niveau de mes pensées, de mes sentiments, de mes projets, de mes idées, de mes perspectives, de mes raisonnements? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Seigneur, rends-nous saints. Dieu veut une église sainte. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, qu'il pourra enlever dans sa gloire. Alors, pour que le feu que Dieu a allumé en nous continue de brûler, que faut-il, justement? Que faut-il? Lorsque Aaron, vous connaissez Aaron? Le premier des souverains sacrificateurs, établi sur l'ordre de Dieu, lorsque Aaron a offert les premiers sacrifices, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il eut mis sur l'autel le corps des animaux qui étaient offerts à Dieu, le feu du ciel est descendu. Il n'a pas eu de temps de craquer une allumette, c'est Dieu qui a envoyé son feu. Alors, Nous avons compris que nous étions sauvés, amen, parce que Jésus s'est offert pour nous. Vous avez compris ça, hein? Oui? Vous avez compris ça? Qui a compris ça? Moi, avec ma petite tête et mon petit cœur, j'ai compris ça un jour, que Jésus s'était offert pour me sauver. Et si quelqu'un ne l'avait pas compris, parle pas simplement d'une compréhension cérébrale, intellectuelle, mais spirituelle. Saisissez-vous de cette vérité. Christ est mort, mon ami, pour tes péchés. Et comme le don spirituel l'a rappelé ce matin, ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes à lui dans un élan de repentance et de foi afin de recevoir le pardon de tes péchés, le salut de ton âme. Voilà, puis voilà, ça y est, on a compris ça. Christ est mort pour nous, Christ est mort pour nos péchés. Il s'est offert lui-même en rançon pour tous. Ce fut un sacrifice parfait. Mais est-ce que nous avons compris qu'à notre tour, une fois qu'on est sauvé, il s'agit pour nous de s'offrir à lui, pour lui? Est-ce que vous vous êtes offert à lui, pour lui? En tout cas, c'est à ce à quoi le Seigneur voudrait nous engager. Regardez, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, où nous lisions tout à l'heure, au verset 1er, Paul dira, inspiré par le Seigneur, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, vos vies, votre être entier, ça veut dire, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ouais, tel est le défi. Mettre notre vie entièrement à sa disposition. en étant prêt à renoncer à toute volonté propre quand c'est nécessaire pour accomplir la sienne. C'est pourquoi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le Seigneur dira avec vérité que pour le suivre, nous devons renoncer à nous-mêmes. On peut renoncer, je ne sais pas moi, quelque chose que le Seigneur nous montre comme étant mauvais, hein? Peut-être une passion, quelque chose qui a accaparé notre esprit, je ne sais pas moi, ça peut être des tas de choses. C'est nécessaire. Mais là, ça va plus loin. Renoncer à soi-même. On y tient à nous-mêmes. Hein? C'est ma vie. C'est moi. Je m'aime. Mais le Seigneur dit, ta vie, renonce-y. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir dans les minutes qui suivent. Mais ça veut dire que ta vie, tu vas la mettre à sa disposition. Pour faire non plus ta volonté, ce qui te plaît, mais la sienne. C'est ça, offrir son corps. C'est ça, en quelque sorte, monter sur l'autel du sacrifice. Et quand c'est comme ça, alors le feu, comme dans les sacrifices d'Aaron, descend. Le feu de son esprit. Il ne vient pas pour nous valoriser, l'esprit. Pour nous faire mousser. Il ne vient pas simplement pour... Comment dire, nous émoustiller, nous satisfaire personnellement. Mais il vient le feu pour que notre vie puisse être efficace pour la cause de Christ. Alléluia. Je ne veux pas dire que le Seigneur va t'envoyer en Chine, en Inde, au Vietnam, ou je ne sais plus trop. Non. Il est fort possible que le Seigneur dise, mon enfant, tu vas rester là. Dans ta famille, dans ton quartier, sur ton lieu de travail, mais là où tu es, tu seras mon serviteur, ma servante, parce que tu auras renoncé à toi-même. Et ta vie m'appartiendra tout entière. C'est ce qu'il faut pour que le feu brûle et continue de brûler. Tu as tes projets dans ta vie, ce n'est pas forcément illégitime. Mais est-ce que tu es prêt à entrer dans les projets de Dieu? Lorsque Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, s'est converti, la première question qu'il a posée au Seigneur, c'est formidable. Que veux-tu que je fasse? Voilà une vie offerte. Voyez, il y a quelques mois, j'ai visité un serviteur de Dieu qui m'était très cher. Il était hospitalisé, atteint d'un cancer. Et quand je suis arrivé dans sa chambre d'hôpital, il était là, assis, en train de lire sa Bible. Et il m'a dit, vois-tu, maintenant je me pose une question. Il avait 85 ans. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? C'est pas beau ça? À 85 ans, une vie offerte. Ça a été clair parce que deux mois après, il est mort, hein. Or, Dieu voulait le prendre avec lui. Mais vous voyez, il y avait cette disponibilité. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse maintenant? Même à l'âge que j'ai, même si je suis au bout du rouleau, même si physiquement je suis diminué, Seigneur, que veux-tu que je fasse? De quelle manière puis-je encore te servir? Montre-moi, parle-moi. Dans ces conditions, le feu de l'Esprit descend et il est entretenu. Et renouvelé. Alléluia. Et puis, pour que le feu allumé en nous continue de brûler, il y a une autre condition. Il faut que... On lit ça dans le livre du Lévitique, tenez. Au chapitre 6 et au verset 4. On trouve cette parole, vous voyez. Il est question là aussi des sacrifices. Et alors, au verset 1er même, il est dit, l'Éternel parla à Moïse... Lévitique 6, verset 1er, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste, le sacrifice. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis, Il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Vous avez vu? Pour que le feu ne s'éteigne pas, il fallait qu'on évacue la cendre et qu'on la mette où ça? Dans un lieu pur. La cendre représente ici, eh bien, tout péché, toute œuvre charnelle. Et ce que le Seigneur désire, c'est que nos péchés, les œuvres charnelles, nous les lui confessions, nous les lui abandonnions et nous les portions à la croix afin d'obtenir le pardon et la délivrance. Si le Seigneur pointe son doigt ce matin sur ta vie ou sur la mienne et qu'il te dise, voilà, dans tel domaine, il y a de la cendre, de l'orgueil, de la jalousie, de la convoitise, du ressentiment, etc., etc., etc. Eh bien, cette cendre, apporte-la dans un lieu pur, à la croix du calvaire où Jésus a donné sa vie, pour que tu sois encore nettoyé, purifié, et que le feu continue de brûler. Vous comprenez? Que le feu continue de brûler. Alors, en conclusion, parce qu'il faut conclure, dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 19, nous trouvons cette parole, « N'éteignez pas l'esprit. » N'éteignez pas l'esprit. Par négligence, par paresse, par une piété en déclin, ou par le péché, hélas, toléré dans notre vie, nous pourrions éteindre en nous la flamme de l'Esprit. Oh, qu'il n'en soit pas ainsi. Il y a une bonne nouvelle. Il est dit à propos de Jésus qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Vous voyez ce lumignon, ça fume. Quand ça fume, ça veut dire que la flamme décline et ça va s'éteindre, ça va finir. Hein? C'est comme ça avec une bougie. Quand la bougie commence à fumer, ça veut dire qu'elle est au bout du rouleau, elle n'en peut plus. La flamme va vaciller, c'est fini. Et peut-être qu'au milieu de nous ce matin, il y a quelqu'un, dans sa vie, ça fume. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut renouveler la flamme. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le Seigneur. Il faut venir dans sa présence. Voilà. En lui disant, Seigneur, rallume en moi ton feu. Alléluia. Fais en sorte que soit réanimé, ranimé, réenflammé la flamme vacillante. Suffit pas d'avoir vécu, je l'ai dit tout à l'heure, un moment particulier, voyez, suite à une sainte effervescence spirituelle. Béni soit Dieu pour ces moments qu'on a pu vivre personnellement, individuellement, ou alors dans une réunion où il s'est passé quelque chose de spécial. On a été vraiment bénis, on a été remplis de l'esprit, on a parlé en langue, c'était glorieux, on avait l'impression, hop, qu'on allait décoller de terre et atterrir dans le ciel tout droit. Mais peut-être que le temps ayant passé, je le répète, la flamme a diminué d'intensité. Eh bien, il faut en être enflammé tout à nouveau. Vous voulez pas ça? Moi, j'ai envie de ça. Hein? Alors, peut-être je prêche que pour moi ce matin, tant pis. Seigneur, allume en moi un feu nouveau. Amen. Et je veux prendre cette résolution de te chercher, de venir dans ta présence, d'éteindre la télé, je sais pas moi, l'ordinateur, peut-être même le portable, et je sais pas quoi encore, de fermer le roman qui me passionne. Et je veux te chercher, Seigneur, te rencontrer, pour que tu renouvelles en moi ta flamme. Et je vous assure, quand on vient vers lui, il le fait, mes amis. Il le fait, vous comprenez ça? Le peuple de Dieu soit enflammé. J'aurais voulu tellement ce matin vous persuadez que c'est une nécessité Hein? Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. La flamme, elle se renouvelait sans cesse, sans cesse, sans cesse. Qu'il en soit ainsi. Et pour cela, mettons notre vie à la disposition du Seigneur. Évacuons la cendre et crions à lui pour qu'il rallume un feu nouveau dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Te bénissons.